Laudetur Jesus Christus.
Entrée en carême ce mercredi, la traditionnelle procession de la basilique Saint-Anselme vers la basilique Sainte-Sabine à Rome est présidée ce soir par le cardinal De Donatis. L'homélie est du pape, cependant, on y revient juste après les titres. L'Europe cherche à se préparer au pire. Le dossier de la défense européenne sera discuté demain en sommet extraordinaire. On en connaît déjà les grandes lignes, nous retrouverons notre correspondant à Bruxelles. Dans ce journal également, le placement stratégique de Taïwan sur le développement des nouvelles technologies. Et au Nigeria, une procédure inhabituelle qui inquiète l'église locale. Les écoles sont fermées dans 4 états pendant le Ramadan.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir à toutes et à tous. Avant de prendre la direction de la colline de l'Aventin à Rome où se termine la procession pénitentielle du mercredi des cendres, quelques mots sur la santé du pape François. Les dernières nouvelles sont attendues d'ici une heure. Aujourd'hui, François a poursuivi ses soins, notamment l'oxygénothérapie, comprendre des canules nasales pour aider à la respiration. Les conditions du Saint-Père demeurent stables, le pronostic réservé. La traditionnelle procession de la basilique Saint-Anselme vers la basilique Sainte-Sabine à Rome a donc été présidée par le cardinal De Donatis. Vous l'entendez, la messe est actuellement en train de se terminer. L'ancien vicaire de Rome a lu l'homélie écrite par le pape François au cours de la messe de ce mercredi des cendres. Messe qui ouvre les 40 jours de carême. Et pour le pape, les cendres donnent l'orientation du chemin du carême vers Pâques, indiquant la mémoire de ce que nous sommes, mais aussi, Jean-Benoît Harel, l'espérance de ce que nous serons.
Nous sommes poussière, nous avons été créés à partir de la poussière et nous retournerons à la poussière. C'est par ces mots qu'a débuté l'homélie du pape François. Les cendres que les fidèles reçoivent sur le front rappellent la fragilité de chaque être humain, souligne le Saint-Père, notamment par l'expérience de la maladie, de la pauvreté, de la souffrance. Mais il existe une poussière plus insidieuse, celle de notre monde politique et social, une poussière que François appelle la poussière fine, celle qui pollue le monde avec ses oppositions idéologiques, l'exclusion des autres, l'exploitation de la terre ou encore la violence et la guerre. Les cendres nous rappellent qui nous sommes, cela nous fait du bien, poursuit François, mettant en garde contre la tentation de faire disparaître ou de marginaliser le drame de la mort.
Et malgré cette fragilité intrinsèque à l'être humain, les cendres sont aussi, Jean-Benoît, un appel à l'espérance.
Oui Marine, car comme le disait Benoît XVI, si l'homme est poussière, il est une poussière précieuse aux yeux de Dieu, parce que Dieu a créé l'homme en le destinant à l'immortalité. François invite chacun à devenir signe d'espérance en mettant le Christ au centre de sa vie, d'abord par l'aumône, pour nourrir l'espérance d'un monde plus juste, ensuite par la prière, en devenant des mendiants du ciel, enfin par le jeûne qui rappelle que seul l'amour de Dieu et des autres peut vraiment nous rassasier. Ainsi, si en ce mercredi nous recevons les cendres tête baissée, François invite à relever la tête pour suivre le Christ, qui nous entraîne des cendres du péché et de la mort vers la gloire de la vie éternelle, car, conclut-il, le Seigneur balayera toujours les cendres de la mort pour nous faire resplendir d'une vie nouvelle.
Merci Jean-Benoît, Jean-Benoît Harel, et bien évidemment, toutes ces informations sont très bientôt à retrouver sur notre site internet, vous connaissez l'adresse www.vaticannews.va. C'est un sommet extraordinaire de l'Union européenne demain à Bruxelles, alors que le président ukrainien se dit prêt à négocier selon les souhaits de son homologue américain. L'Europe s'active pour fournir une aide immédiate à l'Ukraine, mais aussi pour sa propre défense. Le plan Rearm Europe sera discuté demain. Il a déjà été présenté en commission et doit permettre de mobiliser près de 800 milliards d'euros pour la défense européenne, un plan en 5 points. Depuis Bruxelles, Jean-Jacques Herry nous en présente les grandes lignes.
D'abord, et comme Ursula von der Leyen l'avait laissé entendre à l'issue du sommet de dimanche à Londres, une souplesse budgétaire sera accordée aux États membres pour les dépenses de défense. Autrement dit, il y aura une dérogation au pacte de stabilité européen, le fameux « pas plus de 3% du PIB de déficit » pour offrir une meilleure marge budgétaire. Si les États dépensent pour leur défense, on n'ira pas leur taper sur les doigts pour déficit excessif. Car il faut le rappeler ici, tout n'est pas financé par des fonds européens, loin de là, la défense étant une prérogative nationale des États membres. Sur les 800 milliards d'euros euros qui seront mobilisés grâce au plan, 150 le seront sous forme de prêts à disposition des 27 dans le cadre d'un nouvel emprunt commun qui pourrait ressembler à celui souscrit pour faire face au Covid. L'idée est de favoriser des achats communs groupés dans la défense antiaérienne, les missiles, les systèmes antidrones ou l'artillerie, avec un triple objectif de fourniture rapide de matériel militaire à l'Ukraine, de réduction des coûts et d'amélioration de l'interopérabilité des armées européennes, c'est-à-dire de leur capacité à travailler ensemble. Autre piste évoquée, la réorientation de sommes déjà budgétées par l'UE pour le financement de projets de défense. Cela pourrait être le cas pour les fonds de cohésion, normalement destinés aux régions les plus défavorisées de l'Union. Par ailleurs, la Banque européenne d'investissement pourrait maintenant commencer à prêter de l'argent dans le cadre de projets liés à la défense. Jusqu'à présent, elle n'en avait pas le droit. Enfin, Ursula von der Leyen a évoqué une mobilisation de capitaux provenant du secteur privé, sans plus de détails. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, pour Radio Vatican.
Israël doit respecter ses obligations internationales pour que l'aide humanitaire parvienne à la population de Gaza entièrement, rapidement et en toute sécurité. C'est l'exhortation de Paris, Londres et Berlin faite à Israël cet après-midi. L'interruption de l'entrée de l'aide internationale pourrait constituer une violation du droit international humanitaire, estiment les chancelleries. Depuis dimanche soir et la fin de la première phase du cessez-le-feu, Israël a coupé l'accès des camions remplis d'aide direction l'enclave palestinienne. C'est un nouveau pan de la bataille entre les États-Unis et la Chine sur les nouvelles technologies. Le géant taïwanais des semi-conducteurs, ces matériaux essentiels pour développer ces nouvelles technologies, TSMC, annonce des investissements massifs aux États-Unis. Une façon pour Taïwan de se protéger également face aux ambitions territoriales de la Chine. À Taipei, Suzanne Duroy.
100 milliards de dollars, c'est la somme colossale que va investir aux États-Unis TSMC, une entreprise taïwanaise qui produit les semi-conducteurs les plus avancés au monde. Dans la course à l'intelligence artificielle, ces petits composants électroniques sont au cœur de la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. Cet investissement massif survient à un moment très délicat. Donald Trump a plusieurs fois menacé d'appliquer des taxes sur les semi-conducteurs importés. Mais l'enjeu est aussi géopolitique. Face à la Chine, Taïwan a plus que besoin du soutien des États-Unis. Après l'altercation entre Trump et Zelensky, Taïwan dévoile sa carte la plus forte, les semi-conducteurs. Mais en interne, la population est inquiète et les débats sont houleux entre ceux qui soutiennent que cela renforce le soutien des États-Unis et ceux qui craignent au contraire que Taïwan ne perde sa dernière carte face à la Chine. À Taipei, Suzanne Duroy pour Radio Vatican.
Les tensions ne cessent de monter au Soudan du Sud. Le ministre du Pétrole et le numéro 2 de l'armée du Soudan du Sud, des proches du vice-président Riek Machar, ont été arrêtés par les forces loyales au président Salva Kiir. Des arrestations qui menacent le fragile accord de paix entre les deux frères ennemis de ce plus jeune pays au monde. Au Nigeria, l'Église se dit inquiète de fermeture d'écoles durant le Ramadan. Les évêques catholiques du pays ont exprimé leurs préoccupations face à la décision de quatre gouverneurs de fermer les écoles et toutes les activités académiques dans leurs états pendant les 5 semaines du Ramadan. Elles ouvriront à nouveau début avril et cette décision est inhabituelle de la part de ces régions. Les précisions d'Ishiaka Adegboye.
Cette décision inhabituelle prise par les autorités des États de Kano, Katsina, Bauchi et Kebbi a conduit à la fermeture des écoles publiques primaires et secondaires pour permettre aux élèves de passer le Ramadan chez eux, perturbant ainsi le calendrier académique. La fermeture des écoles a suscité de vives critiques de la part de l'Association nationale des étudiants nigérians et de l'Association chrétienne du Nigeria qui a menacé d'intenter une action en justice contre le gouvernement des quatre États. Aminu Ousmane, le chef de la police islamique de Kano, la ISBA, a demandé aux écoles privées de se conformer à l'ordre, donc de fermer leurs portes, déclarant qu'aucun manquement ne sera toléré. En 1999, ces quatre États avaient adopté la charia, la loi islamique. L'opposition de l'Association chrétienne du Nigeria à la fermeture des écoles pendant le Ramadan met en lumière les tensions religieuses palpables dans le pays le plus peuplé d'Afrique qui compte 200 millions d'habitants, majoritairement musulmans dans le nord du pays et chrétiens dans le sud. Ishika Deboye, Radio Vatican, Abuja.
Et vous le savez, ce soir, comme depuis une dizaine de jours maintenant, le chapelet sera récité à 21h, place Saint-Pierre. La prière sera dirigée par le cardinal Semeraro, préfet du dicastère pour la cause des saints. Une prière pour la guérison du pape François, hospitalisé depuis maintenant 20 jours. À suivre en direct sur notre site internet. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.